Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la veille d'une Shabbat très exceptionnelle. Ça s'appelle Shabbat Agadol. Alors ce Shabbat a deux identités. D'une part, c'est Shabbat comme les autres. C'est une Shabbat en français. En hébreu, Shabbat c'est féminin. C'est intéressant. La semaine, c'est masculin. Et Shabbat c'est féminin en français. En fait, il n'y a pas Shabbat en français, mais on a l'habitude de dire la semaine et le Shabbat. Et en hébreu, c'est le contraire. C'est très intéressant cette idée. Mais donc, c'est pour ça que je dis Shabbat. Oui, alors, le Shabbat, mais plutôt féminin. En tout cas, Shabbat a deux significations. Et c'est Shabbat. D'une part, c'est un Shabbat comme les autres. Ce qu'on lit, la Torah, et donc la partie qu'on lit dans la Torah, c'est l'identité de ce Shabbat. Parce que la Torah, ce qu'on lit dans la Torah, il y a des idées, les idées sont très profondes. Et dans la communauté juive, on essaie, dans la semaine, d'étudier, de comprendre, et même de comprendre, selon cette vision chassidique, ou pas seulement, le rapport entre ce qui se passe et ce qu'on est en train d'étudier. Donc alors, la parasha, c'est quelque chose qui prend notre vie. Donc ça, c'est tous les parachutes qui se suivent. Ce Shabbat, on lit et donne le troisième livre de la Torah, Vaikra, et dans le deuxième parasha dans Vaikra, qui s'appelle parasha Tetzav, on va voir quelques idées, même si en grand on continue avec l'idée des sacrifices, mais il y a quelque chose de particulier dans ce parasha. Mais ce qui est vraiment spécial, ce Shabbat, ça s'appelle Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, dans le grand Shabbat. Donc Shabbat avant Pesach, ça s'appelle le grand Shabbat. Pourquoi? Alors, il y a des différentes explications. Il y a un miracle, un grand miracle qui s'est passé. On va revenir tout de suite. Mais il y a un problème. Shabbat, comme on a dit en hébreu, c'est féminin. Et le gadol, le mot gadol, grand, en hébreu, c'est masculin, grand et grande, mais grand. Shabbat ha-gadol, le grand Shabbat. En français, peut-être ça marche, parce que le grand Shabbat, mais en France, en hébreu, le grand masculin, Shabbat féminin. Comment ça marche ensemble? Alors, il y a encore de différentes manières d'explication ça. Et parmi les manières, c'est que ce Shabbat, on a l'habitude que les grands dans la communauté, normalement le rabbin, ils parlent. Aujourd'hui, on est dans une période où on peut avoir tout dans les livres, et pas seulement dans les livres, sur nos portables, sur nos médias. On cherche, on a des questions, alors on a l'habitude, puisque c'est Pessah, et Pessah, il y a beaucoup, beaucoup de lois qui sont assez compliquées. Et il peut y avoir des questions qu'on n'a pas imaginées, on n'a pas rencontré ce problème l'année dernière, et là, donc, on a ce problème. Donc, il y a cette habitude d'étudier. Mais à l'époque, que les gens n'ont pas eu de livres, en tout cas pas autant. Et même dans les livres, il faut savoir se retrouver. Donc, alors, le grand de la communauté, il a fait un discours, un grand discours Shabbat, qu'il a expliqué l'essentiel des règles de Pessah. Aujourd'hui aussi, on a cette habitude, mais aujourd'hui, on voit dans certaines communautés que ce n'est pas tout à fait. Les lois dans certaines communautés, c'est des idées qui se sont développées. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, donc, on a des livres, comme ça, c'était il y a très très longtemps qu'on a déjà des livres partout et que c'était très développé. Mais aujourd'hui, on a des guides, on a dans nos poches tout. Donc, alors peut-être c'est moins important, mais quand même, on garde cette habitude de parler. Et donc, les grands de la communauté, ils parlent des choses essentielles de Pessah. En tout cas, ça, c'est parmi les raisons pourquoi ce Shabbat, il s'appelle Shabbat HaGadol, le grand Shabbat. Mais la raison officielle, c'est qu'il y avait un miracle, un grand miracle. c'est quoi le miracle? Alors, si c'est un miracle commenté d'une certaine manière, de plusieurs manières, mais nous, on va voir ce qui nous intéresse. Donc, c'est le parti, la version qui nous intéresse. Donc, il est marqué comme ça. On sait qu'avant la sortie de l'Égypte, ça durait très, très longtemps. Le processus pour sortir de l'Égypte a duré à peu près un an. Comme ça, on dit la tradition. On dit dans la tradition que lorsque Dieu a rencontré Moshe sur le mont Sinaï la première fois, donc c'était le 15 Nissan. Et ensuite, Moshe est parti en Égypte. Et ensuite, ça n'a pas marché. Moshe s'est caché, ça ne marche pas. Et ensuite, il est revenu avec les plaies qui commençaient. Bien, il faut expliquer ça, que ça veut dire Moïse, il se cache, mais en tout cas, comme ça, il est marqué. Il y a des commentaires, bien sûr, qui expliquent pourquoi et comment. Mais en tout cas, ce processus a duré un an, parce que chaque plaie a duré à peu près un mois. Plus précisément, on parle de 3 semaines et 1 semaine. 1 semaine qui a duré chaque plaie, et encore 3 semaines d'investissement. Et donc, ça va durer 4 semaines, on va dire que un mois à peu près, parce que c'est pas tous, le dernier n'a pas duré comme ça, mais en tout cas, c'est à peu près tout ça, ça a duré un an. Donc alors, depuis le premier plaie, c'était déjà plus facile, parce qu'au début, l'esclavage était très très dur, et ensuite, il y avait, après que Moïse est venu vers Paro, ça est devenu encore plus dur. Et il a augmenté le travail, les heures de travail, la dureté du travail. Et ensuite, après, à partir des plaies, il y avait quand même une meilleure ambiance. Mais à partir de Rosh Hashanah de cette année, ça veut dire 6 mois avant la sortie de l'Égypte, les Juifs, ils ont terminé à être esclaves physiquement. Même si qu'ils ont resté encore en Égypte. C'est comme ça, avec les plaies et divers plaies, c'est devenu plus facile. Mais avec la dernière plaie, ils ont sorti de l'Égypte. Et comme la Torah nous raconte que chaque fois, Pharaon, malgré tout ce qu'il a reçu comme plaie, et malgré tout les merveilles, les miracles qu'il a vus, il n'a pas bougé. Ce qui était très étonnant, mais la Torah nous dit que au début, il est marqué que Pharaon, il va adoucir son cœur malgré tout. Et après, on voit qu'une fois qu'il a adouci son cœur encore, alors c'est devenu automatique. Et donc, il ne voulait pas. Il était têtu. Parfois, on voit des gens qui sont très têtus malgré tout. Ça suffit de voir ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Et donc, ça, c'était Pharaon jusqu'à presque à la sortie de l'Égypte. Il y avait déjà 9 plaies très, très dures, et pourtant, il ne bouge pas, et le peuple ne bouge pas. Il bouge un petit peu, mais pour revenir en arrière. Et encore, il bouge pour revenir en arrière, comme la Torah nous raconte. Mais avant la dernière plaie, qu'il savait déjà que ça va arriver, la plaie de premier-né, il est marqué dans la Torah que Dieu il demande de préparer un sacrifice qui s'appelle le sacrifice pascal. Et ce sacrifice, il faut le prendre, que chacun le prend. En fait, chaque famille, chaque groupe le prend le 10 du mois, le 10 du mois de Nissan, et il le garde pendant 4 jours. Après, ils vont le sacrifier, en fait, c'est pas très clair. En tout cas, ils vont le faire et ils vont le manger le soir même. Et en Égypte, ils ont cru à la force des moutons, donc c'était un idole pour eux. Et là, d'un coup, le juif qui prend chacun dans sa maison et les moutons, ça l'a choqué. Et à l'époque aussi, le premier-né était celui qui avait le pouvoir et celui qui dit les derniers mots. Donc, c'est eux. Les dirigeants, c'est eux qui étaient très durs jusqu'à là. Ils ont rentré voir qu'est-ce qui se passe dans la maison juive et pourquoi ils gardent ces moutons à la maison. Ils ont dit, voilà, c'est un sacrifice et on va le faire parce que Dieu, il va frapper le premier-né. En entendant ça, le premier-né, ils ont allé voir au pharaon et leurs parents, et ils ont demandé qu'on libère le peuple, ce qui n'a pas marché. Le contraire, ça crée un conflit entre les deux groupes, entre le premier-né, que d'un coup, ils ont changé, ils voulaient que le Paro et l'Égypte libèrent, entre Paro, qui lui, il restait dur, il ne voulait absolument pas libérer. Bien, ça, c'est un petit peu l'essentiel de ce qui s'est passé. On le considère comme un grand miracle. Donc, il y avait beaucoup de miracles. Et là, on considère que ça, c'est un grand miracle. Alors, on pose la question, pourquoi, c'est où le miracle, pourquoi ça, c'est considéré comme un grand miracle, et c'est pas plus que les 100, et c'est pas plus que les autres plaies. Et là, il y a une belle explication du rabbi, comme son habitude, comme il voit les choses d'une façon magnifique. Mais encore une autre question. Toutes les fêtes juives sont liées avec les mois. C'est lié, on a le premier jour de Tishri, que c'est le Rosh Hashanah, les 10 jours de Tishri, que c'est Kippour, le 15 de Tishri, que c'est Sukkot, le 21, le 22, que c'est Shmini Atzeret, Simchat Torah, le 23, ensuite Hanouka, c'est déjà après, mais en tout cas Hanouka est lié avec une date, 25 Kislev, Purim est lié avec 14 Adar, il y a Pessah qui est lié avec le 15 Nissan, ensuite Shavuot, que c'est un petit peu différent, mais c'est quand même lié avec pas la semaine, c'est lié avec le jour du mois. Il y a certaines communautés pas juives qui fêtent leur fête, et c'est lié avec le jour de la semaine, lundi Pentecôte, ou bien d'autres choses comme ça. Chez nous, ça n'existait pas. Chez nous, toutes les fêtes sont liées avec les mois et pas avec la semaine. Donc, c'est le jour du mois, même si ça tombe lundi ou mardi ou mercredi, c'est tout le jour du mois. Et là, d'un coup, on a une fête qui est liée avec le jour de Shabbat. Shabbat avant Pessah. Et c'est possible que ça tombe le jour même ou non. Cette année, ça tombe le jour même parce que cette histoire s'est passée le 10 du mois de Nissan. Et cette année, ça tombe aussi. Et ce Shabbat, ça tombe le 10 du mois de Nissan. Mais parce que le premier Pessah est tombé le jeudi. Donc, Shabbat avant, c'était le 10 Nissan. Parce que jeudi, c'était le 15. Alors, et pourtant, cette fête, on considère que c'est une grande fête, comme on a dit tout à l'heure. Et cette fête, on l'a faite plutôt par rapport au Shabbat et pas par rapport au mois. Ça, c'est la grande question. Pourquoi cette fête est différente que les autres fêtes? Alors, il y a ce qui veut dire que puisque Myriam, donc la prophétesse Myriam, la sœur de Moshe et Aaron, elle est morte le 10 Nissan, et puisqu'il y a une habitude chez certains, nous on n'a pas cette habitude, surtout pas aujourd'hui qu'on est faible, mais il y avait certains qui ont eu l'habitude de déjeuner le jour de décès de grands personnages. Et donc, pour ne pas toucher les deux choses, au lieu de les fixer le 10 Nissan, on les fixe le Shabbat. Mais ça ne suffit pas parce que tout dans le judaïsme est exact. Si ça tombe Shabbat, ça veut dire que c'est lié avec le Shabbat. Et là, le rabbi développe cette idée magnifique en disant comme ça, qu'il y a une grande différence, on vit avec deux temps. On vit par rapport à la semaine, on vit par rapport au mois. C'est deux mouvements parallèles. La semaine, c'est plutôt une notion qui est plutôt liée avec la nature. C'est quelque chose qui se répète, on ne voit pas naturellement qu'il y a une différence entre dimanche et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. C'est la même chose, c'est juste une notion de temps. On a fixé, en vérité, on n'a pas fixé. Aujourd'hui, on sait que c'est dans notre montre biologique, notre corps a besoin de ce système de 7 jours. C'est quelque chose que Dieu il a créé le monde de telle manière, de 6 jours et le 7e. 6 jours de travail et 7e. C'est une notion de repos, mais en tout cas, de toute façon, il y a un système de 7. Il y avait ceux qui essayaient d'effacer, de faire une semaine plus grande, plus petite, et ça n'a pas marché parce que ça ne marche pas. C'est une réalité qui décède. Et c'est pour ça que dans la nature, on trouve plusieurs choses décèdent. On dit que la nature est liée avec les notions de sept. Parmi l'exemple qu'on peut voir, comment un cercle fait des sept, si vous allez prendre des ronds, plusieurs ronds qu'ils ont identiques, vous allez faire un tour, vous allez trouver qu'il y a six et le septième au milieu, ça tient bien. Par contre, si vous allez rajouter une, ça va déstabiliser le cercle. Pourquoi? Parce que la notion de sept, c'est quelque chose de naturel. Ou bien d'autres exemples comme cette note de musique. Le sept, c'est lié avec les notions naturelles. En tout cas, la semaine, c'est quelque chose qui se répète, mais c'est quelque chose de très naturel. Par contre, le mois, c'est aussi naturel, mais le mois représente une idée de changement. Le mois, bien sûr que notre montre pour le mois, c'est la lune, mais selon la vision de la Torah, donc la réalité, la lune a été créée pour, en tant que montre, même si c'est un être à part, on peut voir beaucoup de choses par rapport à la lune, qui n'est pas liée avec nous, et pourtant, comme il est marqué dans la Torah, Dieu a créé la lune pour nous, et donc pour nous, oui, même si bien, c'est un sujet qui peut déranger certains, il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, la lune a été créée pour nous, et donc comment ça fonctionne, le monde qui s'appelle la lune, c'est que le monde il commence à partir du moment où on commence à voir la nouvelle lune. C'est même pas au moment où elle dépasse, en fait. Alors, il faut trouver marcher les mots, mais c'est pas le moment où elle dépasse le soleil. Et on peut le voir, on peut imaginer, c'est pas au moment, ce qu'on appelle la naissance de la lune, mais c'est le moment où on peut commencer à la voir, c'est là où commence le mois. Mais en vérité, il commence par là, il commence pas au milieu de la journée. C'est bien, une fois qu'on a vu la lune, alors le jour où on a vu la lune, ceux qui ont vu la lune, ils doivent aller chez le tribunal, mais ce n'est pas le système ancien qui va recommencer avec la venue de Mashiach. Mais en tout cas, il faudrait aller vers le tribunal et dire qu'on a vu la lune et interroger si c'est la vérité. On fixe le jour même comme le nouveau mois. Mais en tout cas, c'est un sujet, mais le mois est fixé par rapport à la lune. Et la lune, son identité, c'est une notion de changement. À nos yeux, c'est vrai, mais puisque tout le but de la lune, c'est pour nous, donc alors ce changement est lié avec nous. Donc alors le soleil, c'est quelque chose que visiblement, on ne voit pas grand-chose, on ne voit pas un changement, et c'est quelque chose qui est plutôt lié avec la stabilité. C'est quelque chose de stable qui ne change pas. Par contre, la lune est liée avec le changement constant. Tout le temps, elle change. Et c'est pour ça que les mois juifs sont liés avec la lune, parce que les mois et les fêtes juives sont liés avec les différences. Aujourd'hui comme ça, demain comme ça, ensuite après, demain comme ça. Et c'est pour ça aussi que les 15 du mois, en fait, les fêtes tombent surtout les 15 du mois, la pleine lune, parce que la pleine lune est liée avec une notion de quelque chose de plein, et donc une notion de fête. Par contre, au début du mois, etc., etc., c'est des sujets assez connus. Donc alors, on a deux systèmes. On a le système de la semaine, on a le système du mois. Le système de la semaine est lié plutôt avec une notion stable, et le système du mois est lié avec les notions de changement. Et nous, dans notre système de vie, il y a les deux notions. Il y a, dans certains domaines, on est stable et ça ne change pas. Et dans certains domaines, on est en train de changer. Et donc ça, c'est notre système de vie. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, tous les mois, toutes les fêtes sont liées avec les mois plutôt. Parce que qu'est-ce que c'est une fête? Quelque chose qui s'est passé. Il s'est passé, avant il n'y avait pas, et là d'un coup les choses s'est passées pour une raison ou pour une autre. Donc c'est une notion plutôt de moi. Le fait, ce n'est pas quelque chose qui se passe tout le temps, ça passe à un moment donné. Par contre, donc, c'est pour ça que tous les miracles, tous les événements, hors commun, exceptionnels sont liés plutôt avec les mois. Et d'ailleurs, les mois en hébreu s'appellent Chodesh, comme le mot Chadash. Chadash, ça veut dire nouveau. Il me semble que j'ai mentionné ça la semaine dernière. Par contre, Shana, l'année, qui est basée surtout, elle est basée sur les deux, mais elle est basée surtout sur le soleil. On trouve le mot Shana, Choser, ça veut dire Shoné, ça veut dire ça revient. Parce que, comme on a dit, le système solaire, en tout cas, la semaine, elle est plutôt avec l'idée de stabilité. Les choses recommencent toujours. Par contre, l'idée de la lune, elle est avec le changement, et c'est ça l'idée du mois. Maintenant, on a posé la question, alors comment ça se fait qu'il y a quand même une fête que lui, elle plutôt, elle est avec le mois, avec la semaine. Et c'est Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Alors là, il y a cette explication d'un autre niveau. Il y a des miracles. Les miracles, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'on est dans un monde naturel. Et c'est naturel parce que Dieu l'a créé comme ça. Et c'est naturel parce que Dieu le veut comme ça. Il y a un système. Il ne faut pas sortir du système. Il y a un moment exceptionnel où on sort du système pour une raison ou pour une autre. Mais en tout cas, normalement, le but, c'est le système. C'est pour ça que ce n'est pas tout le temps la fête. La fête, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais il y a la semaine qui représente quelque chose d'habituel, quelque chose qui est répétitif. Maintenant, est-ce que le miracle, quand il y a un miracle, c'est quelque chose qui dérange ou bien déstabilise la nature? Qu'est-ce que c'est un miracle? On prenait le miracle de Pessah. Il y avait le sang, l'eau qui est devenue le sang. Donc, alors, la nature est telle et le miracle a changé la nature. Donc ça, c'est quelque chose, normalement, les miracles classiques, si on peut dire comme ça, c'est quelque chose qui dérange, qui déstabilise, qui casse la nature. Mais ensuite, il y a aussi des miracles plutôt naturels. Ça veut dire, ça rentre, ça pénètre dans la nature à tel point qu'on ne le remarque même pas. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui est arrivé ici, mais on ne le remarque pas parce qu'il n'y a pas un miracle. Et pourtant, ça rentrait dans le système de la nature. On a les deux notions. C'est vrai que des miracles, on ne voit pas tous les jours. Il y a quand même. Surtout quand, maintenant, avec la guerre, malheureusement, qui était imposée encore et encore. Mais il y a des choses, incroyables qui se passent à côté de tous ces problèmes et tous ces drames. Il y a en Israël beaucoup de miracles quand même. Avec tous les bombes qui tombent, et pourtant, dans la majorité des cas, ça se termine, on peut dire bien, mais il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent, et que parfois on peut leur donner les notions des miracles. Mais il y a des choses que même si que c'est quelque chose d'exceptionnel, mais la personne ne remarque pas, ça rentre, ça pénètre dans la nature. D'une façon générale, on fait les différences entre les miracles de Pessah et les miracles de Purim. Pessah, c'était quelque chose de miraculeux. Même ce qu'il y a, ceux qui veulent expliquer, c'est faux, mais en fait, ce n'est pas le sujet. Mais Purim, c'est quelque chose de nature, naturel. Et pourtant, c'est incroyable. Comme imaginez-vous ce qui arrive souvent. Et moi, je suis témoin parce que ça m'arrive très souvent avec nos responsabilités. Il y a des miracles naturels qui arrivent, des choses qui s'arrangent d'une façon extraordinaire, raconter ma vie, mais en tout cas, il y a des choses qu'il m'arrive, il m'arrive à moi, il arrive aux autres, des choses incroyables qui arrivent, mais pourtant, on ne peut pas l'appeler miracle, parce que miracle, c'est vraiment quelque chose qui casse la nature, qui n'est pas dehors naturel. Imaginez-vous que vous avez un grand, grand problème. Vous devrez trouver telle et telle personne qui, lui seul, il peut vous aider. Et vous ne l'avez pas vu depuis des années. Et là, d'un coup, vous êtes en train de vous promener et vous trouvez cette personne au bout de 20 ans. Comme par hasard, il a passé par là. En fait, il y a des choses. Vous n'allez pas l'appeler miracle. Vous allez dire que le hasard fait bien les choses. Donc, ça, c'est un petit miracle. Parce qu'un miracle, ce n'est pas quelque chose qui casse la nature, c'est quelque chose d'inhabituel. Inhabituel, incroyable, et pourtant, on ne peut pas leur donner les notions des miracles, c'est quelque chose de naturel. Donc, alors, on a deux notions des miracles. Une notion qui casse la nature, une notion qui pénètre dans la nature à tel point qu'on peut ne pas remarquer. Alors, il y a des choses qu'on remarque comme mer, on dit c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais il n'y a rien de miracle là-dedans, tout est naturel. Et pourtant, il y a des choses extraordinaires qui nous arrivent, et ça qu'il peut trouver dans sa vie. Il y a parfois des choses, il est tellement extraordinaire qu'il est ordinaire, on ne le remarque pas. En tout cas, pour revenir à notre sujet, il y a des miracles qu'on peut les appeler miracles. Il y a des miracles où c'est devenu naturel. Alors, il y a quelque chose, parfois, il y a un régime qu'on essaie de changer. Ils sont vraiment mauvais, ils font du mal. On essaie de le changer. Alors, comment on change? On n'a pas d'autre solution. En fait, on essaie pas de changer, mais ils embêtent tout le monde, ils font la guerre contre tout le monde. Alors, malheureusement, il y a la guerre. Il y a la guerre pour déstabiliser ces... dans notre cas, on va parler de Pharaon. Il prend un peuple entier, il torture, il fait tout le mal. On n'a pas le choix qu'utiliser de la force, même si on n'aime pas la force. Mais imaginez-vous que, du jour au lendemain, la personne il change, il devient gentil. Et on n'a pas d'explication. Ça veut dire que s'il devient gentil, pourquoi ce n'était pas pendant des mois? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Donc ça, on peut l'appeler quand même. En tout cas, ça dépend où, ça dépend comment. Mais il y a des choses qui changent d'une façon naturelle. Et on a beaucoup d'exemples, mais on va aller plus loin. Donc, alors, c'est pour ça que le fait que, finalement, les premiers-nés d'Égypte, ils ont compris le message au bout de presque un an. Que personne ne voulait comprendre. Et pourtant, il y avait la force, telle plaie, et ça n'a pas changé. Et maintenant, d'un coup, ils comprennent et ils font le travail pour nous. Donc, ils disputent leur père, le pharaon, pour ils travaillent pour nous quand on sort de l'Égypte, ça on considère comme quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça rentre dans l'ordre naturel, parce que c'est quand même logique. C'est logique que l'homme, il veut ne pas être dérangé, ne pas être frappé, donc il fait la guerre pour sa liberté, donc dans notre cas, le premier-né de l'Égypte. Mais ce n'était pas le cas jusqu'à là, pendant un an, ils ont eu des frappes et ils n'ont pas bougé. Et là, d'un coup, ils comprennent, ils font le travail pour nous. Ça, c'est considéré comme un miracle naturel, encore une fois. D'une part, on peut dire que ce n'est pas un miracle. Quelqu'un qui comprend qu'il va être fini s'il ne va pas faire telle et telle chose, logiquement, il va changer. Mais on a vu en Égypte que ça n'a pas marché. Malgré tout, ils ont resté ce qu'ils ont été. Et là, d'un coup, Shabbat avant, il y avait un changement radical. Et c'est pour ça qu'on a fixé pour Shabbat, parce que Shabbat, c'est plutôt une notion naturelle. Comme on a dit, les jours de la semaine représentent des notions naturelles et le jour des mois relié avec des changements de quelque chose extraordinaire. Donc alors si on va résumer cette idée, on est dans un monde ou bien on a du mal avec ce monde. Ce monde il a beaucoup de problèmes et parfois on essaye de changer, de faire des choses et ça marche pas. Le monde est têtu et ça marche pas. Et là d'un coup on a l'impression que le monde change, il y a un changement. Finalement, ça rentre. Il y a dans toutes les situations, vous avez un élève, vous allez beau tout faire pour ça, rien ne rentre dans la tête. Et un bon jour, vous voyez, ça commence à rentrer. Alors, c'est pas un miracle, mais ça rentrait, ça pénétrait dans la nature, ça change, la nature a changé. Alors, c'est pour ça que cette idée était développée par le rabbi de Lubavitch. Cette semaine, on va fêter son anniversaire. C'est bien on donne les 124e anniversaire. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, l'influence de Rabbi est énorme, beaucoup plus que n'importe qui dans le monde. Il y a beaucoup de milliers, de centaines de milliers de personnes qui le suivent, sa Torah, ses idées, et même beaucoup de non-juifs qui le suivent. Et comment on peut le voir partout, et parce qu'il a une idée, l'idée très forte. Et parmi l'idée, c'est qu'il faudrait, il faut, il a changé pas mal le monde. À l'occasion, on va raconter des anecdotes que beaucoup de gens peuvent voir à droite et à gauche. Mais il faut changer le monde, ça veut dire que le monde il soit bon. Et il nous a donné la confiance, ça veut dire d'avoir confiance à ce monde. D'une part, on voit les problèmes qu'il y a dans notre monde, comment le monde est très très compliqué et pourtant, il nous a donné la solution pour que le monde soit bon. Alors, à l'occasion, on va rentrer plus dans les détails. Mais ça, ça s'appelle plutôt une notion naturelle. Ça veut dire que si on change l'adversaire par la force, ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est pas, ça ne rentre pas dans... En fait, peut-être le mot naturel n'est pas vraiment le mot. Ça veut dire qu'il y a deux manières de changer, par force, donc ce n'est pas quelque chose de naturel. L'autre, l'adversaire, il ne change pas vraiment, il reste mauvais comme il était avant. Mais il y a une autre notion que finalement on arrive à changer. Et là, le rabbi a montré beaucoup de choses, comment dans notre génération, tout d'abord dans la communauté juive, comment on peut changer un monde. Et le monde juif, après la Shoah, il s'est dégradé d'une façon terrible. Après tous les problèmes, le rabbi l'a remis le judaïsme moderne sur pied. Aujourd'hui, on voit partout les gens du rabbi, mais pas seulement ça, aussi au niveau international. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont besoin de quelque chose. Ils vont aller prier dans le tombeau du rabbi, comme quelques présidents de grandes nations aujourd'hui qui le font, et c'est publié partout. Mais pas seulement ça, il suit l'idée et le conseil et l'idéologie de Rabbi. Et parmi l'idéologie de Rabbi, c'est justement cette idée qu'on est à la veille de Mashiach. Et Mashiach, c'est justement que le monde soit bon. Et on avance, même si aujourd'hui on est dans une période très très compliquée. Et on peut beaucoup poser des questions. Et il y a des visions très très négatives par rapport à ce qui se passe. Mais alors, encore une fois, parfois il faut faire ce qu'il faut faire, on n'a pas le choix. Mais d'une autre part, il faut savoir qu'on avance vers un monde qui est mieux. Alors, qui est mieux, même bien. Alors, on est à la veille de Pessah. Et la veille de Pessah, d'une part, Pessah, c'est une notion de miracle, mais plutôt miracle miraculeux. C'est pour ça que Pessah s'appelle Pessah comme la notion de sauter, parce qu'on saute les étapes. Sauter les étapes, c'est quelque chose pas normal. Comme quelqu'un qui, au lieu de faire 10 ans d'études, ou je ne sais pas combien, il va arriver en quelques minutes faire ce que les autres ils n'arrivent pas. Ça s'appelle un miracle, ce n'est pas normal. Dieu il a créé à peu près un système que tout le monde doit passer. On ne peut pas dépasser le système. Mais parfois, on peut trouver un moment où, dans le système, on arrive à le faire bien. Parce que parfois, le système ne marche pas, comme aujourd'hui dans l'éducation et d'autres choses, ça ne marche pas. Mais on voit qu'on arrive à faire passer le message, pas par un miracle visible, par quelque chose qu'on arrive à utiliser bien la nature. Et donc, ça s'appelle un miracle plutôt naturel. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a des problèmes, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, là, d'un coup, on arrive à utiliser le monde que Dieu il a créé, que ce monde il est plutôt naturel. On ne va pas arriver, mais pas comme au moment de Pessah, qu'il faudrait se sauver de l'Égypte, parce que l'Égypte était mauvaise. Donc, pour pouvoir vivre et pour pouvoir continuer vivre comme il faut, il faudrait sauter les étapes. Alors, à l'époque messianique, ça va être plutôt une notion naturelle. C'est pour ça que, d'une part, on est à la veille de Pessah qui parle de miracles, que quelque chose qui, son nom, indique les notions de sauter, mais d'une autre part, on est à la veille de Shabbat qui représente cette idée que ce soit naturel, que ce soit logique. En tout cas, ça, c'est quelques idées par rapport à ces périodes. On n'a pas pu parler finalement de la paracha, qui on trouve un petit peu la même idée. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bonne fête de Pessah. Et c'est très important que chacun participe à ce Pessah, chacun participe physiquement. Ça veut dire que chacun de la communauté, qu'il soit présent dans ces fêtes de Pessah, et que Hachem nous donne à tous Pessah Kasher Vesemer. Bonne fête de Pessah, joyeux et kasher. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.